Good Morning Business, le grand débat.
Ça a commencé à débattre, on doit vous l'avouer sur ce plateau. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Avec Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France. Bonjour, Antoine Fouché, président de Quintet Conseil. Emmanuel Le Chypre. Pourquoi ça débat? Parce que certains sur ce plateau disent que c'est une réforme petit bras et d'autres, comme Emmanuel Le Chypre, disent que c'est une réforme de choc d'offres. Alors.
Défendez
votre choc d'offre.
Non.
Pourquoi vous dites que c'est un choc d'offre qu'on va doper la croissance française?
Parce que vous travestissez mes propos. Si vous voulez me faire dire que c'est une grande réforme, non, et que effectivement, c'est là où on se rend compte. Vous savez, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant, n'est-ce pas? On reconnaît une grande réforme.
C'est pour les divorces, ça, c'est pas pour la retraite.
Si, parce que on reconnaît une grande réforme au fait que finalement on se rend compte que tout ce qu'on aurait gagné si on l'avait faite.
La réforme précédente.
La première version de la réforme des retraites. Qui a été quand même torpillé un peu par le Covid et beaucoup par le Premier ministre Édouard Philippe avec son histoire d'âge pivot à 64 ans, là. Voilà, ça aurait été une grande réforme des retraites. Ah ouais. Là, on est sur une réforme paramétrique et qui a des conséquences, effectivement, puisque vous remettez 1 million de salariés sur le marché du travail. Oui, c'est quelque part un choc d'offre, mais ça n'est pas effectivement un choc au sens où, effectivement, comme l'a justement remarqué Antoine
Fouché,
juste avant qu'on commence à discuter, un choc qui s'étale sur plusieurs années, c'est pas vraiment un choc.
Antoine Fouché, c'est petit bras, cette réforme.
Comme vient de le dire Emmanuel, c'est une réforme paramétrique. Donc, c'est une réforme, si vous me permettez une formule. Avec la réforme, la France sera moins faible, mais elle ne sera pas plus forte. Elle sera moins faible parce que, quand même, ça pousse à l'équilibre. Ça fait des économies qui permettent d'espérer avoir l'équilibre, même si, quand même, les hypothèses qu'on prend pour 2030, elles sont très, très optimistes.
Pour le chômage.
4-5 de chômage et 1% par an de productivité, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas fait.
Ouais.
Donc, on peut espérer, il faut être optimiste, mais on peut aussi parier qu'on n'y sera, pas malgré la réforme. Donc ça, c'est quand même mieux d'être à l'équilibre que d'être en déséquilibre. Sauf que ça ne modernise pas le contrat social français. C'est-à-dire ça garde 3 injustices fondamentales. La première, c'est qu'à cotisation égale, on a toujours pas les mêmes droits à la retraite. En fonction des statuts. La deuxième, c'est que on est toujours à 14% du PIB sur les retraites et ça se fait au détriment de l'investissement, de la préparation de l'avenir sur la santé, sur l'éducation, sur la transition énergétique. On ne touche pas au pacte intergénérationnel qui est inique dans notre pays. Parce qu'il privilégie largement les retraités par rapport aux jeunes générations. Et la troisième chose, c'est que pour tous ceux qui changent de statut régulièrement dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils passent de salarié à fonctionnaire à indépendant, et de plus en plus on va le faire, et c'est très bien comme ça, eux, ils sont toujours pénalisés, parce que moins vous cotisez longtemps dans un régime, plus vous êtes pénalisés. Donc oui, s'il y avait un référendum, encore une fois, je la voterais, la réforme, parce que le pays sera quand même moins faible avec cette réforme. Mais c'est quand même une occasion manquée de ne pas avoir fait cette réforme systémique. Ceci étant, ça de la campagne.
Ouais. Stéphanie Villers, c'est qu'il y a quand même un impact macroéconomique. Vous qui êtes économiste, c'est quand même, ça permet avec ce million de seniors sur le marché du travail de doper la croissance.
Alors déjà, en fait, ça permet le retour à l'équilibre. Et pourquoi on a besoin d'un retour à l'équilibre de notre système de retraite? C'est quand on est déficitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on emprunte, en fait, pour financer notre système. Et quand on emprunte, c'est-à-dire qu'on est obligé, en fait, d'avoir l'aval des marchés financiers et des investisseurs. Alors, il faut voir qu'on est quand même, on le sait, on est un départ de retraite à 62 ans quand la moyenne en Europe c'est 65-67 ans, demander aux financiers de financer notre modèle, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant que Emmanuel Macron a en filigrane ce qui s'est passé au Royaume-Uni, présenté un budget avec des baisses massives d'impôts, c'est pas passé, le Royaume-Uni a dû revoir sa copie. Donc en fait, le retour à l'équilibre, ça permet en fait de ne pas dépendre de la sanction des marchés financiers. Et je pense que c'est plutôt ça l'urgence.
De pas passer au-dessus de 3% sur le toit 10 ans, quoi, en gros.
Voilà. C'est oui.
On est déjà
3%. Puis d'ailleurs, c'est même avec la réforme des retraites, il y aura quand même une augmentation des taux d'intérêt. Hein. Ça dépend pas de ça. Ça dépend pas uniquement de ça. Ouais. Mais la sanction pourrait faire que, les taux d'intérêt bondissent et que notre système ne soit plus finançable. Donc je pense que c'est plutôt ça l'urgence. On n'est pas du tout. Dans la grande réforme, déjà la petite réforme va avoir du mal à passer. Donc il faut raison garder et voir l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est faire le retour à l'équilibre pour ne plus dépendre ou moins dépendre de la sanction des marchés financiers.
Pas plus que ça, Stéphanie Villers. Quand Bruno Le Maire nous dit que c'est 1% de croissance en plus, quand Emmanuel Le Chypre nous dit que c'est 1 million de salariés d'actifs en plus,
Mais non. Là aussi, il faut être raisonnable. Alors,
On est déçus,
regardez,
hein.
le taux d'emploi des seniors, et on le sait, est beaucoup plus faible. Alors, on dit, il suffit de l'augmenter. Alors, pour l'augmenter, on n'a qu'à augmenter la formation. Mais on ne peut pas demander à un senior qui arrive à 60, 62 ans de se remettre sur les bancs de l'école et d'acquérir d'autres expertises. Par contre, là où je pense qu'on n'a pas assez creusé, c'est miser sur l'expertise de ces seniors. Et pour ça, c'est essayer de faire la transmission entre un senior qui a de l'expertise et un jeune qui arrive sur le monde du travail. Le jeune qui arrive sur le monde du travail, en France, on sait, on veut développer l'apprentissage et l'alternance. Il y a eu 700 000 alternants l'année dernière. Donc ces 700 000 alternants, ils doivent être formés. Ceux-là, ils sont à temps partiel. Alors pourquoi ne pas envisager en fait que les seniors petit à petit en fait ne passent pas jour-nuit, c'est-à-dire d'actif à inactif, mais aillent vers du temps partiel pour justement être en phase avec ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui eux-mêmes sont à temps partiel dans l'entreprise. Je pense qu'on peut pas demander à quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a travaillé pendant 40 ans, de remplir de changer de job et d'être toujours dynamique. D'ailleurs, l'entreprise le voit bien que à 64 ans, on est pas aussi dynamique qu'à 30, et Dieu merci pour ceux qui ont 30. Et donc, il va falloir trouver des solutions, en fait, pour que il y ait une adhésion, en fait, pour travailler plus longtemps et d'avoir une utilité. Je pense que l'utilité des seniors, en fait, elle passe dans cette transmission de compétences et pas l'acquisition de nouvelles compétences.
Mmh. Antoine Fouché, est-ce que socialement, cette réforme peut passer ?
Oui, elle ressemble beaucoup à celle de 2010 qui est passée. Donc là, maintenant, je pense que l'enjeu pour le gouvernement, ça va être, si vous me passez l'expression, d'éviter que le bazar s'installe. Et donc, c'est pour ça qu'il a prévu quelque chose d'assez malin, hein, en marchant sur deux jambes. Les mesures difficiles avec un projet de loi financement de la sécurité sociale rectificatif qui permet d'aller très vite et de pas utiliser un 49.3, enfin, ouais. De l'utiliser, mais sans utiliser son quota sur les lois ordinaires. Et une fois que ça s'est voté, c'est vraiment très compliqué ensuite de ne pas accompagner les mesures plus sucrées avec les index seniors, la pénibilité, etc. Sur le projet de loi ordinaire.
Ça peut empêcher une grosse mobilisation, parce que c'est compliqué quand
non,
même.
Non, mais là, l'enjeu maintenant, c'est que mobilisation, elle sera sans doute forte, elle est unitaire, on a vu, elle s'est organisée dès hier, et ça commence dès le 29 janvier. 19 janvier, pardon. Et en plus, elle sera à la fois au Parlement et dans la rue. Et comme le disait hier une responsable de l'opposition, dans la rue, il n'y a pas de 49.3. Donc, ce que le gouvernement a intérêt à faire, à mon avis, maintenant, c'est d'aller le plus vite possible. Parce que plus on risque de s'installer dans le bazar, plus le soutien à la réforme, qui n'est pas déjà massif, sauf chez les retraités qui ne sont pas concernés, du coup, le risque est plus fort.
Plus ça passe vite, mieux ça passe. Alors, on peut se dire, plus ça va vite, et en fait, plus ça braque, Emmanuel.
Ça se jouera pas, de toute façon, sur d'éventuels délais supplémentaires de discussion, de négociation. Donc, effectivement, la question, c'est vraiment... et je pense que maintenant, l'affaire de la mobilisation sociale, ça y est, les dés sont jetés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la mayonnaise va prendre ou pas, mais il n'y a plus grand-chose à faire pour l'éviter aujourd'hui. Toutes les informations sont sur la table. Après, ça va dépendre beaucoup de la psychologie des Français. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève ? Est-ce que c'est pas le bon moment ? Ce qui est probable, c'est qu'on va avoir effectivement une mobilisation assez forte du côté des régimes spéciaux, par exemple, et ce sont eux qui, effectivement, ont potentiellement la capacité de bloquer le pays, par exemple, en termes de transport, etc. Mais est-ce que pour autant une grève massive des transports, c'est ce qu'on pourrait appeler véritablement une vraie crise sociale ? Je suis pas sûr. Si vous avez les contrôleurs aériens, par exemple, qui se mettent en grève, il y aura peut-être pas d'avion ce jour-là. Mais fondamentalement, c'est pas ça qu'on pourrait appeler une vraie crise sociale, c'est-à-dire avec des mouvements qui dépassent même largement le cadre des syndicats sur des mécontentements. En général,
les médecins libéraux s'y mettent avec.
Regardez, il y a beaucoup de dossiers qui sont déminés. Déjà, tout le dossier qui aurait pu être potentiellement explosif autour des petits artisans, des boulangers, etc. On voit bien que la tension est quand même en train de retomber massivement. Et on sentait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se mobiliser pour, effectivement, leur petit commerce sur une problématique, désertification des campagnes, etc. Donc ça, c'est déjà en train de retomber.
Stéphanie Milliers, est-ce que vous avez, vous, des zones d'alerte ? Est-ce que dans votre boulot d'économiste, au sein de PwC France, les boîtes qui font appel à vous, elles sont inquiètes, elles doivent se demander quelles vont être les conséquences macro, à court terme, etc. Est-ce que vous avez allumé quelques signaux ou pas?
En fait, tout risque de tension sociale, c'est malvenu, surtout en début d'année, d'autant qu'il y a quand même des nuages qui commencent à venir et qui...
Vous avez vu la Banque mondiale, qui a ravisé à la baisse drastiquement ses prévisions, quand même.
Voilà. Non, mais ça, c'est toujours plutôt le rétroviseur.
Et toujours aussi optimiste.
Non, mais c'est pas vrai. C'est la façon dont leurs prévisions sont faites. Si vous voulez, c'est des très grosses machines qui tournent avec des très gros modèles, une très grosse inertie. Et donc les prévisions qui sont publiées aujourd'hui, ce sont des prévisions qui sont basées sur des informations d'il y a plusieurs mois.
Alors qu'est-ce qu'une économiste comme Stéphanie Weiler s'en pense de cette révision à la baisse des prévisions de la Banque mondiale?
Ce qu'on voit au sein des entreprises en France, c'est qu'il y a quand même un optimisme qui est là, qui est bien plus réel que par comparé aux consommateurs, aux ménages. Il y a quand même il y a vraiment une dichotomie entre le moral des ménages qui se dégrade et le climat des affaires qui reste au-dessus de sa moyenne de longue période, alors que les entreprises font face à une crise énergétique, un abaissement de leurs perspectives. Mais on voit que l'investissement reste à des niveaux très élevés et a priori, et pour l'instant, en fait, les entreprises ne voient pas d'hypothèses qui leur feraient revenir sur leur perspective, notamment en matière d'investissement. Donc, c'est plutôt, ils n'ont pas encore décroché. Ils restent quand même beaucoup plus optimistes que.
Mais à un moment donné, si de la consommation en pâtit, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça.
C'est ça. 2023, c'est travailler sur la consommation. C'est-à-dire qu'on voit que ça se fait au détriment de l'épargne. C'est-à-dire que la consommation baisse, mais l'épargne augmente. Donc, il n'y a pas un manque de liquidité. Il faut juste qu'en fait, que ce soit cette épargne-là soit refléchée vers la consommation. Donc, il faut stimuler un peu...
Mais il y a un point
quand
même pour le climat social. Mais ça, après, je laisse la parole à Antoine là-dessus, parce qu'il est expert du sujet. C'est le... Concrètement... Parce que les retraites, c'est très bien à l'horizon 10, 20, 30 ans, mais les salariés d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des augmentations, c'est les négociations salariales. Et donc là, beaucoup va dépendre de la qualité des discussions dans les entreprises. Et ça, Antoine, il a des capteurs qui sont...
Alors Antoine,
que disent les capteurs, les NAO?
Les capteurs, c'est quand même un contraste entre une forme d'optimisme sur l'évolution du marché et une inquiétude quand même assez forte sur le climat social. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, et notamment les plus grandes, elles observent quasiment toutes une forme de mouvement d'autonomisation des collectifs salariés, comme on a vu à la SNCF, comme on a vu avec les médecins libéraux, comme on a vu dans d'autres entreprises.
Y compris dans les NAO, par exemple.
C'est des collectifs qui se mettent en place et qui prétendent donner aux syndicats leur feuille de route dans les NAO. Et ça, quand vous avez des collectifs auto-organisés, pour négocier, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, le problème, en plus, c'est que c'est une lame de fond. C'est-à-dire que ça vient de loin et ça va pas s'arrêter. Parce que la défiance vis-à-vis des organisations syndicales, elle est de plus en plus forte. Et la difficulté à se ranger derrière un collectif, même si c'est au détriment de son intérêt individuel, elle est aussi très forte.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la mobilisation, par exemple, de la semaine prochaine? Ça veut dire qu'on ne suit pas ces syndicats ou ça veut dire que la mobilisation pourrait être forte?
Je pense que par rapport aux syndicats, les syndicats se mettent, je fais une hypothèse, se mettent peut-être le doigt dans l'œil sur l'adhésion des salariés à leurs revendications. C'est-à-dire, c'est plus les salariés, comme dans les boîtes, qui instrumentalisent les syndicats quand ils en ont besoin, qu'une adhésion à la posture des salariés.
Et est-ce que vous croyez que là, ils vont justement les instrumentaliser, entre guillemets, sur les retraites?
FO a fait 180 déplacements sur ces 3 derniers mois dans toute la France. Ouais, c'est jamais vu.
Oui, ils se mobilisent très fortement, mais c'est pas pour ça qu'ils sont entendus, parce qu'encore une fois, la défiance, elle vient de très loin. Et en plus, je pense que ça va vraiment dépendre d'un cocktail qui peut prendre ou ne pas prendre en fonction de symboles beaucoup plus qu'autre chose. Parce que si on regarde que les grandes tendances, il y a d'un côté la défiance, de l'autre côté une forme de résignation, parce que contrairement à ce que disent les syndicats, tous compris, tout le monde comprend qu'il faut travailler plus longtemps quand l'espérance de vie s'allonge. C'est une question de bon sens. Donc là, il y a un décalage entre les gens et les organisations syndicales. La question, c'est à quel point les efforts qu'on me demande dans le système injuste, je les accepte ou pas. Et là, j'ai une divergence par rapport à petite, grande réforme. Je pense qu'une grande réforme aurait été beaucoup plus facile à faire passer.
Ah oui.
Parce qu'une grande réforme, qu'est-ce qu'on appellerait une grande réforme? C'est une réforme dans laquelle on se dit, bon, cette fois-ci, c'est la dernière. Ouais. Ok, on nous demande des efforts, mais on sait pourquoi ça va faire, ça va projeter la France de façon positive dans l'avenir. Alors que là, la manière dont c'est ressenti,
vous n'étiez pas parvenu dans la présente réforme.
Mais non, mais parce que comme l'a dit Emmanuel, à un moment donné, c'était pas clair. C'est-à-dire, c'était une réforme systémique, mais il y avait quand même un âge pivot.
C'est la faute à Edouard.
Plus personne. Non, c'est une décision collective du gouvernement, donc on peut pas.
Oh, mais enfin, je veux dire, si on n'avait pas introduit cet âge pivot à 64 ans, qui est quand même la chose, la créature d'Edouard Philippe, ça se serait. Alors après, il y a eu le Covid, après il y a eu tout ça, mais ça a quand même donné un sérieux coup d'arrêt à cette réforme.
Mais c'est une décision collective. Le Premier ministre n'aurait jamais pu prendre cette décision sans l'aval du Président.
Mais c'est ça, tous c'est les jours, ça, on a des gens qui regrettent cette réforme à point.
C'est pas vrai, Antoine, ça a quand même frité entre les deux. Ils n'étaient pas d'accord.
Ouais, mais le Premier ministre ne pouvait pas imposer au président un changement le président l'a accompagné.
Alors que
dans l'entourage du président, enfin bon, voilà, c'est la petite.
Moi, je pense pas qu'il
y avait plein de gens qui étaient.
Alors que là, juste pour terminer, il faudra là concrètement, il faut être très clair. Dans 10 ans, il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Ah oui, mais je pense que c'est même plus que moins que dans 10 ans.
Ah ouais.
Et donc, je pense c'est ça qui fait que ça peut partir si à un moment donné on se dit OK, le système se reviendra à l'équilibre, mais dans quelle mesure j'accepte de faire des efforts alors que les efforts, on ne les demande pas à tous. Ouais. Et donc, pourquoi c'est encore moi? C'est ce que se disent beaucoup de salariés du privé, surtout dans les catégories modestes. Donc, à mon avis, ça va être ça le déclencheur. C'est est-ce que ces personnes-là, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 21 ans, 22 ans, ce que la CFDT appelle les salariés de la deuxième ligne, est-ce qu'à un moment donné, ils vont être prêts à tout miser pour se mobiliser ou pas. Mais les autres catégories, à mon avis, se mobiliseront pas. Après, les régimes spéciaux peuvent se mobiliser, mais ce n'est pas excessif de dire qu'ils sont quasiment pas concernés.
Bah, quand même un peu. Ils vont devoir travailler 2 ans de plus, y compris les gens qui sont en emploi.
Sauf que, comme l'âge de décote ne change pas, et qu'aujourd'hui, ils y sont quasiment, ils vont travailler quelques mois de plus, mais pas 2 ans de plus. Ça, c'est pas vrai. Donc, en fait, il y a une quasi non-réforme des régimes spéciaux. Pardon d'être un peu dur, mais et donc du coup, quand tout le monde va s'en rendre compte un petit peu et que ça sera expliqué, ceux qui vont vraiment devoir travailler plus vont se dire mais pourquoi encore moi? À mon avis, il est là le facteur. Même si il faut faire cette réforme là pour l'intérêt général et qu'elle est indispensable.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous.